Bonjour frères et sœurs et amis, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, nous avions parlé de la foi en partant du texte de 1 Corinthiens 13 au verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Aujourd'hui, nous poursuivrons sur le thème de l'espérance. Mais tout d'abord, prions. Seigneur, je te remets ce message, que ce soit ton esprit qui nous parle, que ce soit ta parole qui nous enseigne. Seigneur, que tu nous guides dans la compréhension de ta parole, Seigneur, et que cela nous fasse progresser dans ta connaissance. Amen. Le dictionnaire nous donne bien sûr une définition de l'espérance, enfin trois définitions d'ailleurs. Il nous dit que l'espérance est un sentiment de confiance en l'avenir. Deuxièmement, il nous dit que c'est un sentiment qui porte à attendre un bien déterminé. Et pour finir, il nous dit que l'espérance peut être une personne ou chose qui est l'objet de cette attente. Nous avons parlé de la foi qui ne concerne pas les choses que l'on voit, mais celles qui sont invisibles, mais cependant réelles et présentes. L'espérance ne concerne pas les choses présentes ou actuelles, mais celles qui sont à venir, à un instant précis, à plus ou moins long terme. Cela peut concerner un avenir proche ou lointain selon l'objet de notre espérance. Le psalmiste nous dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. » L'espérance a un rapport avec la foi. Elle complète la foi. Elle nous tourne vers l'avenir et elle agit sur le présent en nous aidant à vivre le présent. On peut imaginer quelqu'un qui croit en Dieu et qui soit sans espérance réelle quant à la vie après la mort et quant à son salut. C'est pourquoi il est nécessaire que la foi et l'espérance soient associées. L'espérance est une chose indispensable dans la vie des hommes et des femmes, comme dans la construction psychique des enfants. Que de drames et de vies gâchées à cause de jugements péremptoires et de rejets définitifs sans espoir de retour et de pardon. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Jésus nous le révèle dans la parabole du fils prodigue. Et si nous reprenons l'histoire de l'homme, au début, dans la Genèse, nous voyons que Dieu n'a jamais laissé l'homme sans espérance. L'homme a désobéi, il a péché, et comme Dieu l'avait dit, la mort est venue comme la conséquence inéluctable. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous dit Romains 6, 23. Une condamnation sans espoir de rédemption est une chose insupportable. Dieu a parlé à Adam et Ève et au serpent ensemble. Dieu a annoncé la victoire sur le diable. Dans la Genèse au chapitre 3, verset 15, s'adressant au serpent, Dieu dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dans la postérité de Adam et Ève, il y aura un homme qui écrasera la tête du serpent, qui vaincra le diable. Et nous savons qui a vaincu le diable. Ensuite, pour couvrir la nudité d'Adam et Ève qui en avaient pris conscience, Dieu a dû tuer un animal, faire un sacrifice. Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Il indiquait ainsi le moyen par lequel notre conscience serait purifiée, ce qui a été pleinement réalisé par la mort de Jésus-Christ à la croix. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Plus tard, Dieu va se former un peuple qui devra être son témoin. Il va appeler Abraham, Isaac, Jacob, qui sera ensuite appelé Israël. Jacob va prophétiser la venue du Shiloh, du Messie. Dans la Genèse au chapitre 49, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. C'est ainsi que les Israélites étaient dans l'attente du Messie, le Sauveur. Dans son cantique, Marie dit: Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. En effet, Dieu avait dit à Abraham : Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Le salut et l'espérance concernent donc tous les hommes et pas seulement le peuple d'Israël. Le Messie règle le problème du péché et de notre condamnation. Jésus est de la postérité de Abraham, mais aussi la postérité de Ève. C'est lui qui a écrasé la tête du serpent. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Nous l'avons lu dans Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Nous avons foi en Dieu et en sa parole. Nous croyons en sa promesse. C'est ce qui provoque en nous l'espérance pour ce que nous ne voyons pas encore. Paul dit aux Romains au chapitre 8: Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Nous voulons parler ici de l'espérance chrétienne, l'espérance de la vie éternelle. Les espérances des hommes s'arrêtent toujours à la mort. Job nous dit au chapitre 27 de son livre: « Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme ?» Sans Dieu et sans l'intervention de Dieu, l'homme n'a aucune espérance. Nous vivons dans une société post-chrétienne qui rejette le christianisme. Le paganisme revient en force. Mais dans le paganisme, il n'y a aucune espérance. Il ne reste que la peur de la mort, la crainte des esprits et de puissances surnaturelles imprévisibles. Il faut se rappeler ce qu'était la vie des nations païennes avant que la foi en Jésus-Christ leur soit prêchée. Paul dit aux Éphésiens, au chapitre 2, « C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair par la main des hommes, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Les hommes qui vivent sans la foi et l'espérance vivent dans la crainte de la mort et sont dans la servitude de divinités démoniaques. Il a fallu que Jésus intervienne à un moment de l'histoire humaine. Hébreux au chapitre 2, verset 14 nous dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » L'espérance n'est pas un rêve. Certains disent que les hommes ont besoin de rêver. Mais les rêves s'évanouissent. L'espérance demeure. Il n'y a pas 36 espérances. Il n'y a qu'une seule espérance pour les hommes. Elle est unique. C'est ce que Paul nous dit dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Notre espérance n'est pas une pensée positive, c'est une personne. Dans la première lettre de Paul à Timothée, l'apôtre nous dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. » Jésus-Christ, c'est lui notre espérance. L'apôtre Pierre, lui, nous parle d'espérance vivante dans sa première lettre au chapitre 1. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Notre espérance est agissante, puisque c'est Jésus-Christ lui-même qu'il a vaincu la mort et qu'il vit éternellement pour nous secourir dans nos besoins. Dans le livre aux Hébreux, nous lisons chapitre 7. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. L'espérance est donc loin d'être une notion vague, un souhait pour l'avenir. Notre espérance s'appuie sur la foi que nous avons en la résurrection de Christ. Même au moment le plus sombre de la vie humaine, c'est-à-dire au moment de la mort, l'espérance est là et s'appuie sur la résurrection de Christ. Dans la lettre aux Thessaloniciens, La première, au chapitre 4, nous lisons « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Être pour toujours dans la présence du Seigneur, quelle espérance! Cela n'a rien à voir avec la possession d'un petit lopin de terre. David disait dans son psaume 23 au verset 6 « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » L'apôtre Jean nous rapporte les paroles de Jésus au chapitre 14 de son évangile. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » À la fin du livre d'Ézéchiel, à partir du chapitre 40, il y a une description très détaillée du temple de Dieu, des territoires réservés à l'Éternel et aux princes. Il y a les limites du pays réservé aux tribus d'Israël et ensuite le partage du pays avec des dimensions précises égal pour chaque tribu. Le nom de la ville est « L'Éternel est ici ». On a du mal à comprendre et imaginer cette description. Mais l'impression générale, c'est une notion de justice, de droiture et d'équité. Le dernier verset est une clé d'interprétation. Nous sommes dans la présence de Dieu. Quand Jésus nous dit qu'il va nous préparer une place dans la maison de son Père, chacun aura une place égale et équitable. Nous avons tous la même place dans le cœur de Jésus et dans le cœur de Dieu, et nous aurons tous la même place dans sa présence. De quoi nous rassurer tous et rabattre l'ambition que l'orgueil peut mettre dans la pensée des hommes. Nous aurons tous le même héritage dans la cité céleste grâce à l'œuvre de Jésus accomplie à la croix. Cette espérance fondée sur Jésus-Christ est ce qui nous empêche de partir à la dérive quand la tempête fait rage, quand nous pouvons être assaillis par le doute dans les pires difficultés. L'espérance nous rattache au Seigneur, à ses promesses. Dans Hébreux au chapitre 6, nous lisons « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Paul parle de la fermeté de l'espérance des Thessaloniciens. Alors, comment renforcer notre espérance? Paul dit « Votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ ». Notre espérance se renforcera au plus nous connaîtrons Jésus-Christ, son amour, sa sainteté, sa sagesse, sa puissance, sa souveraineté, son éternité. Au plus, nous découvrirons l'étendue de la puissance de notre Seigneur, au plus notre foi sera consolidée et notre espérance affermie. Inversement, si notre relation avec notre Sauveur diminue, s'espace, alors notre espérance diminuera aussi et nous aurons du mal dans les difficultés qui arrivent toujours dans notre vie humaine. Si notre espérance peut être entière, c'est en étant des enfants obéissants. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, nous dit l'apôtre Pierre dans sa première lettre. Dans les psaumes 42 et 43, le refrain est celui-ci. « Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Pour terminer, frères et sœurs et amis, je vous laisse avec cette parole de Paul aux Romains, au chapitre 15, verset 13. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Eh bien, Seigneur, que cette parole soit réel dans nos vies, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, que ton esprit fasse abonder l'espérance. Amen.